Il est parti là-bas, il est rentré, et sa femme m'a accompagné toujours. Il m'a donné le résultat. Sa glycémie déjà était à 300. Et il ne le savait pas. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'on peut refaire cet examen après? On l'a refait, il était toujours au-delà de 300. Alors je lui ai dit, désormais, fais un effort pour trouver un bon médecin, commencer à te faire soigner. Et je l'ai suivi, j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant, parce qu'après 2 jours, je l'ai recommandé à un professeur qui travaille régulièrement avec moi, mais qui est basé en Ouganda, un grand professeur à l'hôpital Nakasero, où on a déclaré qu'il était diabétique. Quelle est l'histoire de ce jeune pasteur? En fait, il venait d'être consacré pasteur d'une église où il n'avait pas beaucoup d'expérience et il avait ce que nous allons parler avec vous aujourd'hui, le stress. Le stress de ce nouveau travail, le stress des responsabilités. Et déjà, il faisait le diabète et il ne le savait pas. Cette rencontre a permis à ce jeune homme d'être soigné aujourd'hui. Le stress. Est-ce que dans l'église, il y a le stress? Est-ce que dans l'église, il y a le stress? Voilà. Le stress, vraiment, c'est quoi? C'est ce que j'ai toujours demandé aux gens. Le stress, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la maladie de notre siècle. La maladie qui tue silencieusement les gens. Et cette maladie est dans nos maisons, dans nos familles, dans notre milieu et dans le lieu de travail. En fait, c'est quoi? C'est la façon dont nous réagissons en face des problèmes, en face des difficultés. Et quand j'ai demandé, Richard était venu dans mon bureau, j'avais vu le tableau, un diagramme de votre église. J'ai vu qu'il y a beaucoup de professionnels. Il y a un diagramme. Je remercie un peu l'équipe qui a organisé ça. J'avais l'idée de votre église, le nombre des travailleurs, le nombre des chômeurs et le nombre des autres. Et je me suis dit, on va échanger sur ça. Vraiment, c'est très important. Votre façon de réagir, comment vous réagissez en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père. Si vous dites, vous êtes chrétien, vous allez influencer votre milieu, mais vous devez être d'abord équilibré. Vous devez être chaque jour au moins normal pour diriger votre famille, votre couple. Les premiers problèmes maintenant commencent dans nos couples. Les premiers problèmes commencent dans nos mariages. Et les jeunes que j'encadre chaque jour, tous ces jeunes qui viennent me parler, je leur pose la question. Est-ce que vous avez construit l'essentiel pour vous marier? Et j'ai été dans beaucoup d'églises. Et par exemple, dans l'église H, j'ai passé beaucoup de semaines pour former les conseillers conjugaux. Ceux qui doivent encadrer les mariés. Parce que ce n'est pas tout d'être frère en Christ et sœur en Christ et d'aller vite au mariage. Mais c'est mieux de préparer ce mariage. Pour que dans ce mariage, vous vivez le bonheur et l'harmonie. En diminuant le stress, en diminuant la façon de réagir à l'autre, en diminuant la façon de résister contre certaines situations, en regardant positivement, comme un bon chrétien, avec beaucoup de foi, quand on n'a pas d'enfant. Il y a quelques jours, j'ai reçu une femme, maman pasteur, ça fait 11 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Et je lui dis, comment toi tu réagis et comment ton mari réagit pendant les 11 ans? Et quand j'ai parlé avec elle, et je continue à parler avec elle parce qu'elle est encore en consultation chez moi, j'ai senti qu'elle est moins chrétienne devant cet événement-là. Et souvent, beaucoup d'entre vous sont moins chrétiens devant les événements de la vie. Et c'est ainsi que je me souviens quand je lisais l'histoire d'un grand pasteur qui a une grande église dans le monde. Il disait ceci, un jour, on l'a appelé, on a dit que son enfant était à l'hôpital avec les enfants de leur classe. C'était en Corée, c'est Yonggi Cho, un grand pasteur. Il dit, on a amené les enfants à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'il paraît que dans la nourriture, la nourriture était infectée, presque empoisonnée. Et les enfants commençaient à mourir. Et lui, il est parti à l'hôpital, trouvant son enfant presque inconscient. Comment tu réagis, toi, quand tu as devant l'enfant que tu sais qu'il peut mourir comme les autres, toi, chrétien? Alors il dit, il regarde l'enfant, il dit, Seigneur, moi je suis pasteur. Si cet enfant ne servait pas par ma prière, j'aurais honte de toi et personne ne saura me suivre. Mais je n'ai pas d'autre prière, c'est ce que je t'ai dit. Alors quand il a regardé l'enfant, l'enfant a commencé à vomir. Maintenant toi, quand tu as peur, tu dis quoi? Et c'est ainsi que nos enfants nous observent en tant que chrétiens. Beaucoup d'enfants nous observent et voient comment nous, nous réagissons. Pour que demain, quand ils vous suivent à l'église, ils aient conscience que mon père a impacté notre famille, a un comportement de chrétien pour que je le suive. Devant la crise, devant le chômage, devant les difficultés et devant les conflits. Voilà, donc, alors j'ai fait quelque chose de très simple. Quel est le stress sur le plan familial et le stress qui détruisent les familles? Et sur le plan familial, vous allez voir que beaucoup de gens ne sont pas bien. Ce sont des chrétiens, mais des chrétiens à l'église et non à la maison. Et avec le temps, beaucoup de gens sont devenus malades à cause de conflits de mariage et rien n'a changé alors qu'ils sont là, qu'ils passent devant nous et qu'ils conduisent comme bons chrétiens. Il y a sur le plan professionnel le stress, la façon dont les autres te jugent, la façon dont vous êtes avec les autres peut t'empêcher d'être un bon chrétien sur le plan professionnel. Je me souviens d'un monsieur qui avait fait un témoignage et je le suivais. Il vendait dans une pharmacie. Et dans la pharmacie, on leur payait $50. Mais eux, les recettes par jour pouvaient atteindre $500. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Tous des chrétiens. Ils augmentaient les prix sur les produits. Quand tu viens avec ta ordonnance, ils te posent la question, est-ce que tu as cherché ça dans d'autres pharmacies? Quand tu dis, je n'ai pas trouvé là-bas, ils disent, ah ok, donc ils ne les trouveront que dans notre pharmacie. Si c'est $10, ils commencent par 20. Et ils te regardent, ils te disent, mais non, toi tu dis quoi? Et chaque jour, il a mené l'argent chez lui. De ce qu'il gagnait dans les prix des produits pharmaceutiques. Et chaque dimanche, il allait prier. Alors, il était même à l'aise parce que sa femme était complice, chrétienne. Il lui dit, chérie, si tu n'as même pas cet argent, on va mourir de faim. Est-ce qu'un chrétien peut se comporter devant le stress de manquer l'argent comme ça? Alors, vous savez ce qui lui est arrivé? Un jour, il était dans la pharmacie. Ils étaient trois, comme d'habitude. Trois complices, trois chrétiens. Un fou s'est mis devant la porte. Il lui a dit, toi, laisse te voler, tu es un enfant de Dieu. Il lui a répété trois fois, comme ça, toi, laisse te voler, toi, je veux. Maintenant, lui, il s'est caché derrière les autres. Il lui a dit, toi, je te dis. Et ce jour-là, il a été interpellé. C'est ce jour-là qu'il a laissé te voler, mais avec le sentiment qu'ils vont mourir de faim. Et vous savez ce qui s'est passé? Et ça, c'est son témoignage. Trois jours après, le bailleur qui vit en Europe l'a appelé. Lui a dit, papa, tu es un bon. Tu as fait longtemps dans ma maison. Désormais, tu vas vivre dans cette maison sans payer. C'est-à-dire, il a laissé de voler, mais regardez ce qu'on lui a donné. Le stress professionnel. Nous travaillons avec beaucoup de gens, mais quand vous le regardez, et puis dimanche, tu le vois à l'église, je dis, est-ce que c'est celui-ci le chrétien? Voilà, le stress sur le plan social pousse à l'agressivité et au conflit. Certaines personnes, vous ne pouvez pas être locataire avec eux. Locataire avec eux. Mais chaque jour, vous le voyez sortir avec la Bible. Conflit. Est-ce que ce stress-là qui l'amène dans le quartier, dans la parcelle, est-il un bon chrétien? C'est tout de cela que nous allons partager. Est-ce que nous pouvons avancer? Le stress est partout. Le stress est partout, dans notre vie, dans votre vie de couple, dans l'éducation de vos enfants. Mais seulement, l'Église est une chance pour notre pays. Votre Église est une chance pour votre pays. Mais seulement, quel est le comportement que vous, chrétiens, vous avez pour changer ce pays? ça commence petit et ça devient grand. C'est-à-dire que ça commence par deux personnes pour devenir au niveau d'une province et puis d'un pays. Et les chrétiens, pour moi, sont ceux qui protègent la famille. Parce que maintenant, la famille est attaquée. La famille est attaquée par tous les occultistes que vous connaissez. Maintenant, c'est le mariage pour tous. Homme, homme, femme, femme. Et quand je suis avec mes étudiants qui suivent mon cours de psychologie des comportements, les étudiants qui sont vos enfants, quand je leur parle de sexualité, je leur pose la question, est-ce que vous êtes hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel? Ça m'a étonné d'apprendre que beaucoup d'enfants sont bisexuels. Vous connaissez ce que ça veut dire bisexuel? Les deux. C'est-à-dire si je suis fille, je sors avec les garçons, et si je sors aussi avec les filles. Mais ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants chrétiens. Nous devons être les gardiens de la famille. De la famille. Sans les chrétiens, cette famille va disparaître. En Europe, ça commence comme ça. Il y a les valeurs du mariage. Quand je vois les gens qui ont à peu près mon âge ici, et certains un peu plus jeunes, dans les années 80 jusqu'aux années 90 ou 90, le mariage n'avait pas la valeur que vous, les chrétiens, vous donnez. Nous, les chrétiens, que nous donnons. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le deuxième, troisième bureau, n'est-ce pas? Et on épousait les filles à quel âge? À 14 ans, à 15 ans. Mais maintenant, la loi interdit, c'est un viol. Mais où est-ce qu'il y a beaucoup de mariages? C'est dans nos églises. C'est à l'église. C'est l'église qui a sauvé ce pays depuis 80. On a diminué cette histoire de deuxième bureau, troisième bureau. Maintenant, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. C'est l'église. Et là, c'est l'impact de vous, les chrétiens. La protection de l'enfant. Ça fait que c'est beaucoup de chrétiens qui gardent. Et quand j'entre ici, on n'a pas su entrer ici, parce que beaucoup d'enfants sortaient d'ici. Et vous avez vos écoles des enfants. C'est l'éducation. L'impact du chrétien, c'est l'éducation de l'enfant. Mais seulement cet enfant veut voir en toi, papa ou maman, le vrai chrétien. Parce qu'avec lui, tu ne lui mens pas. Mais avec nous, tu peux nous mentir. C'est clair. Il y a des gens, quand il est devant ici, quand il regarde ses enfants, d'avoir honte pour ce qu'il a fait le matin avant de venir à l'église. C'est clair. C'est eux qui savent ce qui tu es, ce que tu dis et ce que tu fais. Mais seulement l'éducation des chrétiens est la bonne. Nous avons maintenant nos femmes qui sont les gardiennes de la morale. C'est ça l'impact d'un chrétien. Garder la morale. Il y a une valorisation de la vie face aux destructions. Le chrétien craint la mort pour ne pas la donner. Bien sûr, j'apprends beaucoup de choses dans certaines églises où on s'empoisonne. Mais je suis sûr que chez vous, il n'y en a pas. Mais seulement, c'est la valeur de la vie. Pour ne pas avorter. Pour ne pas faire du mal à l'autre. C'est une valeur d'un chrétien qui doit faire l'impact dans son milieu. Il y a l'amour de l'autre, loin de la discrimination et de la xénophobie. Votre église, c'est l'église de quelle tribu? Oui, c'est quoi? C'est quelle tribu ici? Tout le monde, hein? Mais seulement j'ai appris qu'il y a des églises, des tribus. Mais seulement ça, ce n'est pas des chrétiens. Le chrétien, avec l'amour, ne peut pas chasser l'autre. Il y a des hôpitaux, des tribus. Et cela sévit intensément dans tout le pays. Ce n'est pas des chrétiens. Ce sont des complices. Le chrétien a le devoir d'être un modèle dans son milieu, mais sait-il que le stress peut détruire et le changer? Tout ce que nous avons dit, c'est bien beau. Mais seulement le stress peut faire que tu ne sois pas le bon chrétien. Le stress de ton mariage, le stress de ton travail, le stress de ton chômage, le stress de ta stérilité, le stress du conflit que les autres t'amènent. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Je l'avais dit, nous pouvons avancer. Pourquoi on va parler de ça? Parce qu'il faut que vous appreniez à le gérer. Pour être même un bon chrétien, gérer vos stress. Comment vos stress influencent votre comportement? Comment vos comportements de chrétiens influencent votre environnement? Et c'est ça que nous allons partager. J'ai déjà mangé 10 minutes. On va courir vite. Voilà, c'est quoi le stress? Je l'ai dit, c'est votre réaction en face des situations. C'est la réaction de votre corps, la réaction de votre cœur, de votre esprit, de tout. Parce qu'on peut voir que quelqu'un est sous stress. Nous pouvons avancer. Maintenant, les causes qui peuvent amener au stress, aux réactions, c'est-à-dire trembler, avoir maux de tête, les conflits de famille. Beaucoup de gens qui sont ici dans l'église, parfois ils ne savent pas gérer la belle famille. La belle famille. La maman, le papa de l'autre. Les premiers conflits de nos mariages sont là. Et parfois, certaines femmes, dès le début, elles sentent qu'elles sont sous l'emprise de la maman du garçon. Les divorces, excusez-moi pour la faute, c'est S là-bas. L'éducation des enfants, un travail chargé. Les situations à surveiller. Il y a des situations où tu ne sais pas demain comment nous allons manger, demain comment nous allons vivre, demain comment on va se soigner, demain comment est-ce que je vais amener les enfants à l'école. Ce sont des situations qui amènent le stress. Les violences domestiques et sexuelles. Qui ont l'habitude de frapper leur enfant comme discipline ici dans la salle? Frapper les enfants comme moyen de discipliner les enfants. Je crois que c'est une bonne éducation. Vous pouvez vous manifester, non? Il n'y a personne. Mais seulement, une fois j'ai trouvé un ami chez lui, il a enlevé la chemise, il a enlevé la ceinture, il veut frapper son enfant. J'ai dit, tu as enlevé tout ça pour tout ce petit ici. Mais seulement, certains de vos enfants, si on enlève les habits, ont des cicatrices de fou. Certains maintenant, même à l'école, ne savent pas retenir les cours parce que vous avez trop frappé leur tête. Donc certains enfants, quand ils vous voient, ils peuvent faire pipi parce que vous leur faites peur. Vous êtes des lions ou des lionnes. Ce sont les violences domestiques. Mais seulement tu l'as frappé toute la journée, pendant une semaine, et dimanche tu lui dis, suis-moi à l'église. Il ne te suit pas, il a seulement peur de toi. L'occasion viendra, il va te le remettre. C'est ainsi que vous allez voir qu'un taux plus élevé des chrétiens, leurs enfants ne les suivent pas. Parce qu'ils savent ce que tu es avec eux à la maison. Et dans beaucoup de maisons maintenant, et dans beaucoup d'églises, il y a les violences sexuelles. Il y a une église pour laquelle je devais faire des consultations. C'est que les jeunes m'ont dit de l'église. J'étais obligé d'appeler le pasteur pour les lui dire. Et à la base, certains responsables qui ont abusé de leurs filles. Les problèmes financiers. Il n'y a pas de travail. On n'a pas toujours suffisamment d'argent. C'est un grand stress. Maintenant, comment continuer à prier et croire en Dieu? Et comment est-ce qu'on peut être un bon chrétien dans une situation comme ça? Ça aussi, ce sont des facteurs de stress. Les attaques, la mort, les incendies. Goma, c'est plein d'incendies. Tu peux tout perdre. Et poser une seule question que j'entends de beaucoup de chrétiens, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe pour permettre cela chez moi? Il y a le vol, la guerre, le chômage et beaucoup d'accidents. Ici, nous sommes champions des accidents de moto, hein? Et souvent, quand les gens tombent sur la moto, merci Seigneur, et tout cela. Et quelles sont les conséquences? La fatigue. Beaucoup d'entre nous, là, tu te réveilles chaque jour, tu te sens fatigué. Tu pars à l'hôpital, tu n'as pas de malaria. On prend la tension, elle est normale. Mais pourquoi tu te sens fatigué pendant 2 semaines? Tu pars au lit à 18h, tu te réveilles demain à 10h, mais tu es toujours fatigué. C'est signe de stress. Il y a les maux de tête. Il y a certains d'entre vous qui sont devenus même des champions des comprimés. Amidol, quoi encore? Voilà, vous voyez, vous savez tout ça. Hein? Vous êtes devenus champions de maux de tête qui ne finissent pas. Arrêtez monsieur, arrêtez madame, c'est le stress. Stoppez le problème qui vous tourmente, les maux de tête finissent. C'est les troubles de mémoire. Certains d'entre vous, tu peux regarder ton enfant comme ça, 30 minutes, le nom de l'enfant ne vient pas. Tu entres dans la maison, tu cherches les clés pendant une heure. Où sont les clés? Où sont les clés? Mais après, tu te rends compte que c'était dans ta poche. Trou de mémoire. On a maintenant des problèmes de cœur. Vous avez comme des courants dans le cœur, palpitations et tachycardie. Il y a les tensions intérieures. Beaucoup sont devenus hypertendus et on ne sait pas bien respirer. Et les maladies à répétition. Le stress diminue l'immunité. Tu ne résistes plus en face des maladies. Donc à un moment donné, il y a des moments où nous surchargeons l'intercession pour chasser le mauvais esprit. Alors qu'en fait, ce n'est pas le mauvais esprit, c'est ton stress. Règle-le, tu n'as pas tout ça et tu vas prier comme un bon chrétien. Nous avons maintenant sur le plan psychophysiologique, tu ne sais pas décider. Tu as beaucoup de confusion. Et il y a même le problème, tu ne sais pas étudier. Certains de vos enfants qui échouent, n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce que peut-être vos menaces les amènent sous un stress à tel enseigne que l'enfant ne sait plus très bien. Combien d'enfants ont réussi à faire pipi au lit? Parce que tellement le papa et la maman sont si menaçants, si violents, que l'enfant fait une régression et il reprend à faire pipi au lit. Parfois, certains deviennent comme des bébés. Et c'est ça, à cause de nous, parents, violents que nous sommes. Nous pouvons aussi voir d'autres conséquences qui sont avancées. C'est sur le plan maintenant émotionnel, il y a le problème des colères. Certaines personnes, leur travail les a changés. Le stress du travail dépasse à telle enseigne quand tu reviens à la maison. Tu as envie de rester seul, même pas un enfant. Quand un enfant crie, c'est comme si on t'agite un peu à l'intérieur. Tu deviens très irritable, tu as totalement changé. Et surtout pour ceux qui travaillent loin de leur famille, quand ils rentrent dans la famille, personne ne le reconnaît. Ce n'est plus le même papa. Ce n'est plus le même papa gentil. Et c'est souvent dû au stress. Et on a envie de rester seul et on est tout le temps, on a l'impression d'être très abattu. C'est son travail. Et surtout pour le travail où on te menace chaque jour de te licencier. Où on vous menace chaque jour de fermer le travail. Et ça, ça peut changer quelqu'un. Même les meilleurs chrétiens, parfois, ils tombent. Ils perdent leur foi. Nous avons maintenant, nous pouvons avancer un peu plus vite. C'est sur le plan comportemental. Beaucoup de gens, ils étaient doux, ils étaient calmes, mais ils commencent à trop parler. Trop parler et avec l'injure parfois facile, chrétien. Et certains, heureusement pour vous, personne ne prend l'alcool ici, mais seulement, beaucoup commencent à plus prendre les médicaments plus qu'avant. Et prendre les médicaments sans prescription médicale, nous appelons ça abus de substance. Certains médicaments pour le sommeil et pour diminuer les douleurs ont une dose des drogues. Et quand on s'en habitue, on ne sait pas s'en détacher. Et beaucoup de gens ont toujours des comprimés chaque jour, sans prescription médicale, et ils en prennent trop. Pour le sommeil, pour l'estomac, pour le maux de tête. En fait, c'est le stress, soit de la famille, soit du travail, soit du chômage. Il y a l'envie de rester seul pendant longtemps. L'envie de rester seul. Certains nous trompent même. Tu fais quoi dans la chambre? J'ai pris. Il ne prie pas. Il regarde le plafond. Il est là. Il n'a même pas envie de prier parce qu'il ne croit plus. Et ça, c'est un problème. Il y a des critiques des autres et un peu manque d'hygiène. Les gens ne se soignent pas et on devient agressif. En fait, moi, je me suis toujours dit qu'un chrétien doit être un monsieur ou une dame, un monsieur doux ou une dame douce, n'est-ce pas? C'est combien de saints, les fruits de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? C'est quoi? Et puis, il y a un problème, hein? Mais un chrétien doit être doux. Mais comment il y a des chrétiens si agressifs plus que les païens? Le stress. Parfois, on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est devenu comme ça. Et voilà les quelques comportements. Mais il y a les conséquences que je voulais énumérer en commençant par cette histoire que j'ai racontée de ce jeune pasteur. Nous pouvons avancer. Le stress est à la base de ces maladies. L'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les maladies de la peau. Et moi, dans toutes ces périodes que j'ai travaillé avec beaucoup de mamans, elle peut utiliser tous les produits qu'il faut pour la peau, ça ne marche plus. Tu as l'impression que la lotion que tu achètes maintenant est fausse. Non, c'est ta peau maintenant, sous le stress, qui ne respecte pas. Les cheveux vont commencer à se couper. Les ongles vont commencer à se couper. Et même certaines personnes, même les dents, tu commences à faire des caries. Le stress, soit de ton mariage, du travail ou du problème des enfants. Beaucoup ont connu des pertes de mémoire. Tu rencontres quelqu'un que tu connaissais tu as étudié avec lui, mais le lot ne vient pas. Tu te poses la question, où est-ce que nous avons mis les documents de la maison? Vous pouvez chercher 10 jours. Tu ne sais pas où tu as mis les documents de la maison. Perte de mémoire. Il y a, malheureusement, je suis convaincu que nous sommes que des mariés ici. Le stress attaque le sexe. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes que j'ai reçus en consultation sont venus avec un seul problème d'impuissance à cause du stress. Dans leur responsabilité, ils ont trop travaillé, ils ont eu trop peur au travail et ça a entamé ça. Beaucoup de femmes, l'argent n'est pas dans la maison, difficulté de gérer, et beaucoup de femmes sont devenues, à cause de ce stress, sont des femmes frigides. Parfois, vous pouvez commencer à prendre beaucoup de médicaments, suivre des soins, mais c'est des pertes d'argent. Arrêtez-moi ce stress, vous allez devenir normal. Et beaucoup commencent à grossir, parce que le stress peut vous amener à ce qu'on appelle la boulimie, l'envie de tout, de manger à tout moment. À tout moment, tu as envie de manger. Le stress attaque le sommeil. Tu entres sur les lits, à 21h, tu commences à ronfler. À 23h, c'est fini, jusque le matin. Et ça te revient, ça te revient, ça te revient. Le stress. Le stress attaque même le sommeil autrement. Tu peux faire l'hypersomnia. Ça signifie quoi? Au lieu d'avoir une perte de sommeil, mais toi, tu as toujours sommeil, même à l'église. Il suffit que la prédication commence, toi. Alors c'est tout le monde, tous les voisins qui te réveillent. Que ce soit à la cour, même chez toi, tu n'as même pas 10 minutes sur la télé, tu dors. C'est l'hypersomnia. C'est aussi un trouble de sommeil. C'est un trouble de sommeil pour beaucoup de gens. Et voilà, nous avons maintenant les maladies qu'on peut avoir, la migraine. Ça signifie une permanence des maux de tête. Une permanence des maux de tête. Nous avons même maintenant les problèmes d'estomac. Beaucoup sont entrées très belles au mariage. Je parle bien des femmes, parce que le taux le plus élevé des ulcères, c'est les femmes. Dieu est bon, hein? Il a gardé nos estomacs, nous les hommes. Mais beaucoup d'hommes, c'est l'hypertension. Alors, il y a ça, il y a maintenant beaucoup de troubles qu'on appelle psychosomatiques. Les maladies pour lesquelles, quand on fait le test à l'hôpital, il n'y a rien. Mais toi, tu as des douleurs. Toi, tu as des trucs. Mais à l'hôpital, il n'y a rien. En fait, ce sont les maladies psychosomatiques amenées par ton stress, soit de ta maison, soit de ton travail. Nous pouvons avancer. Alors, comment est-ce que tu peux influencer les autres? Toi qui as l'estomac qui est en feu. Toi qui ne dors pas. Face aux besoins, à quelle réponse? Les besoins, c'est quoi? Beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de nos frères, quand tu dois l'influencer, c'est qu'il faut comprendre son besoin. Quel est le besoin? Beaucoup de gens ici, quand ils viennent à l'église, parfois ils pensent que Dieu va les bénir pour trouver leur travail. Mais non, toi, chrétien ancien, comment tu peux l'influencer pour aller vers cette bonne recherche de travail? En gardant le moral, en gardant l'honnêteté d'un bon chrétien. Comment est-ce que tu peux aider un chrétien à faire face à la peur? Parce que chaque jour, nous avons peur de quelque chose. Comment est-ce que tu veux aider un chrétien à faire face aux réactions? Toi, chrétien, qui as vécu tes stress, aux réactions, aux menaces plutôt. Comment est-ce que tu peux aider un chrétien face aux crises que nous connaissons? Crise sociale, crise politique. Comment est-ce que tu peux l'aider à faire face au blocage? Il ne sait pas se marier, elle ne sait pas se marier, les enfants ne savent pas étudier. Comment est-ce que tu peux l'aider? Comment est-ce que tu peux aider face aux provocations? Il y a des gens, il est gentil, il est chrétien, mais c'est tout le monde qui l'attaque là où il travaille. C'est tout le monde qui est contre lui dans sa parcelle. Comment est-ce qu'on peut aider un chrétien à résister à cela, à ce stress des attaques? Comment est-ce qu'on peut faire face maintenant aux maladies graves, aux maladies chroniques? Et quand je parle des maladies graves, des maladies chroniques, c'est ainsi, j'avais reçu une fois une jeune qui m'a amené sa tante maternelle. Cette femme a piqué une crise au travail, elle a commencé à crier, à tomber par terre, à s'agiter. Elle fait ce qu'on appelle l'hystérie. L'hystérie, vraiment elle tremble, elle crie. Pourquoi? C'était la fin du mois, on devait remettre aux travailleurs de leur entreprise les vivres pour fêter Bon, plutôt, c'était à la fin de l'année, pour fêter le nouvel an. Alors, il y avait une liste, c'était par catégorie. Et cette maman était sur la liste des veuves. Oui, elle était veuve, parce que ça faisait 2 ans que son mari était mort. Alors, quand on l'a appelée, on a dit, maintenant, telle, la veuve telle, la maman a commencé à crier en disant à tout le monde, je ne suis pas veuve. Pourquoi vous m'appelez comme veuve? Elle a crié, elle est tombée, et ça paraît bizarre aux gens. Et sa nièce, qui était une femme que j'avais aidée, est venue me voir et dit, est-ce qu'il y a moyen d'aider ma tante? Et c'est ce jour-là que j'ai appris comment ça lui est arrivé. Cette femme a fait 20 ans comme présidente de l'intercession de leur église. Cette femme a vu des gens guérir grâce à sa prière. Même vraiment sauvée. Elle était forte dans la prière. C'était une femme de prière. Elle avait un enfant qui était en 6e secondaire. Alors un jour, le matin, il devait aller au travail. Son mari se réveille à 5 heures, il prépare tout. Après, il dit non, mais il est encore 5 heures, je rentre dormir un peu. Quand il est rentré dormir, la femme l'a entendu en train de ronfler. Il dit, mais c'est pas normal. Lui, il n'a jamais ronflé. Comment il ronfle comme ça alors qu'il est presque 6 heures? Il a bougé, le mari ne bougeait pas et il balançait la tête. Elle a eu très peur, elle a paniqué, elle a appelé leur jeune garçon, ils l'ont pris dans la voiture, ils l'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin lui a dit, mais maman, tu amènes un cadavre, il est déjà mort. Alors elle s'est posée la seule question que beaucoup de chrétiens se posent. Dieu, tu étais où? Qu'est-ce que tu peux permettre dans ma famille? Moi, intercesseuse, autant d'années, ayant sauvé beaucoup de gens. Comment ça peut m'arriver? Il n'était pas malade, il s'est réveillé, je l'ai vu. Cette femme est devenue incrédule, c'est-à-dire elle a perdu sa foi. Elle est devenue malade. Et c'est ça qu'on appelle le stress traumatique. Elle n'a jamais accepté. Alors j'ai dit, madame, avant qu'on commence, tu dois pardonner. Alors, pour toi, qui tu ne peux pas pardonner? Vous savez à qui elle m'a dit? Elle a dit à Dieu. Elle a dit, monsieur, je ne pardonne pas à Dieu. Ça, c'est un. Deux, à mes parents. Parce que je les ai fait venir chez moi pour les envoyer en soins en Europe. Comment ça se fait-il que quand ils sont chez moi, mon mari meurt bizarrement? Je ne les pardonne pas. Et j'ai eu des difficultés pour la mettre en soins, en thérapie comme il faut. Chrétien, après 20 ans, intercesseuse, mais comment est-ce qu'elle réagit devant la mort qui frappe à sa porte? C'est ça, impacté. Maintenant, tout le monde qui la suivait n'allait plus à l'église parce qu'elle disait qu'à l'église, il n'y a rien. Et l'enfant qui était en 6e cette année-là n'a pas réussi à l'examen d'État. Parce que la maman lui disait, mais c'est Dieu-là que j'ai utilisé pour les autres, n'a pas été chez nous. Et c'était un travail difficile parce qu'on devait le faire. Et moi et un autre pasteur. J'ai reçu beaucoup de chrétiens qui, devant les événements de la vie et le stress qu'ils reçoivent, perdent la foi. Perdent la foi. Et comment est-ce que tu dis que tu vas influencer les autres? Qui était tout le temps derrière toi, croyant que tu es loin de Dieu, croyant que tu es au-dessus, croyant que toi tu fais face à la mort et aux menaces, tu peux arrêter ces mauvais vents. Voilà un peu ça. Comment vous faites pour être en face de vous, alors que vous-même, il y a le stress qui peut vous changer. La résilience chez les chrétiens, c'est cette capacité de faire face aux événements de la vie. Et cette résilience, on peut la gérer avec la gestion des crises. Mais au-delà des gestions des crises, c'est la foi. La forte conviction que vous, chrétiens, vous avez quelqu'un de plus fort que ce qui est en face de vous. Sinon, non, ça ne va pas. Combien de parents paniquent quand on a chassé l'enfant à l'école et qu'ils ne savent pas comment ça va se passer? Et ils sont prêts à tout. Combien de gens, pour leur stérilité, sont allés chez les féticheurs? Alors que le soir, il va dormir à l'église où on doit veiller et gêner pour lui. Le matin, il était chez le féticheur. Combien? On a déjà perdu la foi. Mais comment est-ce qu'on peut influencer ne fût-ce que nos enfants si ce stress de la vie, vous ne savez pas le gérer? Pour avancer, leadership et influence du chrétien. Ça, c'est tout un thème que nous pouvons partager plus tard si vous voulez. Celui qui amène au changement vers l'amour de tous. Un chrétien ne peut qu'être animé par l'amour derrière lequel il y a un pardon. Mais s'il n'y a pas ça, même ton mariage, le plus heureux, tu ne sauras pas le vivre. C'est lui qui fait triompher la justice. Mais nous voyons combien de chrétiens ici injustes et visiblement. C'est lui qui conduit les autres vers la paix sociale et la paix intérieure. Un chrétien, c'est le modèle à partir de son couple. Tu es juste avec tes enfants. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tu es juste dans ta parcelle. Combien de chrétiens bailleurs ici, ils nous mettent mal à l'aise, nous les locataires? Combien ici? Et même le dimanche, aujourd'hui, il est venu prier. Oh non, mais personne ne va te suivre. C'est lui qui triomphe de la peur devant les autres. Devant les autres. C'est biblique, non? Quand Jésus a dit à l'un des apôtres, « Marche, viens vers moi », qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait quoi? Voilà. Et Jésus lui a dit quoi? Homme de peu de foi. Beaucoup vous l'êtes à cause de vos stress et les enfants le savent. À un moment donné, quand tu cries aller à l'église, l'enfant se pose la question en lui. Je te suis papa, pourquoi? Voilà. Alors que tu ne sais pas être modèle. C'est lui qui ne renie jamais ses convictions religieuses. Jamais. Les autres sont forts, mais les chrétiens que nous sommes devons être forts dans nos convictions, en tout temps et partout, quel que soit le stress qui t'anime. C'est lui qui ne se prend pas pour un Dieu. Tu peux, vous voyez cette femme dont je viens de vous parler? 20 ans après, cette maman pensait qu'elle est devenue Dieu, n'est-ce pas? Elle guérissait, elle permettait aux gens d'éviter la mort. Mais quand la mort a frappé devant sa porte, elle s'est vue homme. Elle a perdu la foi. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment avoir l'impact sur les autres? L'empathie. Savoir se mettre à la place de celui que toi tu vas aider et que tu vas conduire comme bon chrétien. Qu'est-ce qu'il vit en me parlant de ça? Qu'est-ce qu'eux vivent en me parlant de ça pour que moi je les aide et je les conduise? Amour propre, instinct de conservation, oui, c'est ton égoïsme, mais quand même tu aides les autres. Deux, réveiller un ardent désir de celui que vous souhaitez influencer. Quand vous devez demander à vos enfants de prier, quel est le désir de la prière que vous mettez en eux? Pourquoi? Pourquoi ils doivent prier? Pourquoi ils doivent respecter les 10 commandements si vous en respectez que 2 et ils sont conscients? Et enfin, le pardon. Le pardon, et j'ai vu que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Il suffit qu'une histoire devant un stress énorme, il ne sait pas pardonner. Et c'est difficile que vous puissiez influencer les gens, que 2, 3, 4 vous suivent s'ils savent que moi, son enfant, depuis que j'ai fait la faute en mois de janvier jusqu'au mois d'avril, on continue à me punir. Est-ce que c'est juste vos parents? Un enfant qui a fait la faute au mois de janvier, maintenant là, nous sommes au mois d'avril, tu continues à le punir juste pour cette faute. Maintenant, tu lui dis, prions notre Père. Quand tu dis, il faut pardonner, tu sautes, non? Parce qu'il ne faut pas le dire devant lui. Donc voilà un peu, en bref, ce que je voulais dire. 10 minutes ou 30 minutes qu'on m'a donné, c'est pas facile. L'attachement à la religion diminue le stress au travail. Le pardon améliore la santé physique et la santé mentale. La vie de prière et de méditation gère le stress. Il y a certaines personnes qui reviennent. Par exemple, j'ai reçu beaucoup de gens qui ont été kidnappés, des gens qui ont été attaqués. On les a mis dans mon cabinet. Je leur pose la question,
quel est votre premier besoin?
Ils me disent, monsieur, nous avons envie de prier.
Nous avons envie de prier. Nous avons envie de dire, Seigneur, merci, nous sommes là.
Et nous, autre chose d'abord.
La prière et la méditation. Ça veut dire que vous mettez la soigne de beaucoup de stress. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas besoin de notre thérapie. Tellement qu'ils ont une vraie foi et une conviction. Il y a un comportement qui traduit le pardon, il faut l'avoir. Et il y a des systèmes qu'on peut vous donner. Vous êtes chrétien, vous avez des rythmes, mais ne vous oubliez pas. Ayez une culture de soigner votre santé mentale. Et ça commence par les petites choses. Vous adultes que vous êtes, n'oubliez pas de boire régulièrement l'eau. Parce que le stress augmente, avec l'adrénaline, ça augmente le sucre dans votre sang. Si vous buvez moins d'eau, vous ne diminuez pas ça. Le stress est parmi les premières causes de diabète et d'hypertension. Beaucoup d'entre vous, parfois, ils le sont déjà. Quand vous avez veillé, quand vous avez jeûné, quand vous reprenez, récupérez. Ce n'est pas que vous commencez à manger 10 boules par jour, non. Récupérez, mangez normalement et dormez. Un adulte comme vous, s'il a une dette de sommeil, à cause du stress et à cause des exercices spirituels, il perd quelque chose dans sa mémoire. Réglez le conflit en bon chrétien. Tu ne sais pas pardonner ta femme, mais vous allez dormir des mois et des mois sur le lit. Vous êtes des ennemis intimes. Je reprends bien, des ennemis intimes. Et vous mourrez très vite. Vous mourrez très vite. Parce que vous avez combien de nuits à passer ensemble où tu dois ruminer. C'est un stress. Vous manquez l'argent. Vous perdez la foi. On vous dit, priez, tout ce qui n'est pas sera. Toi, tu regardes, tu dis, jamais. L'argent, là, viendra comment? Alors, vous cherchez autre chose. Donc, faites des mécanismes. Soyez actifs. Faites un peu d'exercice. Manger, ce n'est pas remplir l'estomac. Manger, c'est entretenir votre corps. Si vous oubliez de manger, le corps vous réclamera. Et créez toujours un environnement de joie. Faites le calcul. Pendant cette semaine passée, combien de fois il y avait la joie dans votre maison? Combien de fois il y avait la joie? Il y a des gens, tout le temps. Mais comment? Les enfants doivent te respecter et non avoir peur de toi. C'est clair. Vous créez le stress et vous l'animez. Voilà brièvement ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.